7h26, l'heure du reportage de la rédaction Le Monde. De la recherche cherche à réduire l'empreinte carbone des laboratoires. Partie d'un petit collectif il y a 5 ans, l'expérience Labo 1.5 touche aujourd'hui plus d'un quart des chercheurs français. C'est un reportage signé Cécile de Kervas-Doué.
Tout est parti d'une tribune de chercheurs dans le journal Le Monde en 2019 qui enjoignait les scientifiques à réduire leur impact sur l'environnement et annonçait la création d'un collectif, Labo 1.5, en référence aux objectifs visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Ce collectif proposait une méthode inédite pour calculer les émissions de gaz à effet de serre de chaque labo de recherche.
Avant de faire ces calculs, beaucoup de discussions tournaient autour du rôle de l'avion. Les chercheurs prennent effectivement beaucoup l'avion du fait de la nature très internationale de notre activité. Et certains vont y aller 30 fois, 40 fois, ça existe.
Patrick Henbel est astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique. Comme beaucoup de chercheurs, il a d'abord été surpris de voir que ce n'était pas l'avion qui était le plus émetteur.
Le gros des émissions, en fait, est lié aux achats, c'est-à-dire au matériel. Par exemple, en astrophysique, c'est beaucoup lié aux télescopes eux-mêmes et aux satellites. Ça veut dire qu'il faudra réduire le nombre d'instruments que la discipline souhaite construire et maintenir. Donc, ça veut dire avoir accès à moins de données et sans doute changer notre façon de travailler. C'est-à-dire développer une vision beaucoup plus collaborative et beaucoup plus consensuelle.
Aujourd'hui, plus d'un tiers des laboratoires de recherche académique français ont rejoint Labo 1.5. Si les équipes sont unanimes pour mener les premières évaluations, la réduction effective des émissions peut créer des blocages. Et c'est ce qui s'est passé au laboratoire Mère et Enfant en milieu tropical, installé à la faculté de pharmacie de Paris. La question de la réduction d'émissions a conduit à la fin du projet, explique André Garcia qui dirige ce laboratoire.
Le recueil de la donnée, c'est quelque chose de primordial en recherche. Il faut y aller plusieurs fois par an et ça a un coût en termes de voyage en avion. Donc est-ce que l'objectif final est que notre unité de recherche baisse les émissions de gaz à effet de serre de 30, 40, 50% et donc je pense qu'il y aura une diminution en termes de résultats de recherche. Ou bien est-ce qu'on modifie nos pratiques quotidiennes et si ces modifications de pratiques n'aboutissent qu'à 5 ou 10% de diminution, on considère que c'est déjà un geste vertueux et important.
Ce laboratoire se cantonne donc à des petits gestes comme remplacer moins souvent les ordinateurs, porter des surchaussures réutilisables, faire des achats groupés. Mais ça ne répond pas à la masse des achats de plastique à usage unique. Florence Migonabia, c'est la directrice adjointe de l'unité.
Le verre, ça demande toute une logistique de lavage et donc des postes de personnel technique qu'on a de moins en moins dans les laboratoires. Donc on peut mettre le manipulateur à risque.
Pourtant, il pourrait y avoir une solution plus simple, avance Audrey Sabag, enseignante-chercheure en génétique qui avait lancé l'expérience 1.5 dans son laboratoire.
Quand on faisait une analyse par motif de déplacement, les missions de terrain ne constituaient pas plus de 10-15%. Il y avait une mesure qui nous semblait assez évidente, qui était l'arrêt des AG dans une de nos implantations en Afrique, qui nécessite de déplacer tout le laboratoire sur place. Ça double presque notre bilan carbone. Et en fait, on a eu une grande levée de bouclier. On a décidé à l'unanimité qu'on ne souhaitait pas continuer parce que ça nous paraissait plus, du coup, de l'affichage.
Parce que dans la plupart des labos qui ont rejoint l'expérience, les objectifs votés par les chercheurs oscillent entre 35 et 55% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 6 ans. Et c'est le cas du laboratoire L'Océan, implanté sur le campus de Jussieu à Paris, où les 160 salariés ont voté à plus de 80% la mise en place d'un quota carbone pour leur déplacement en avion.
Chaque personne se voit allouer une quantité de carbone et au fur et à mesure que les années passent, elle baisse. Donc la première année, c'est 10 tonnes, c'est 5 allers-retours Paris-New York, pour finir à 2 tonnes et demie en 2026. Cette année, on est à 4 tonnes, 2 allers-retours Paris-New York.
L'océanographe Olivier Aumont coordonne cette expérimentation qui n'est pas encore aboutie, dit-il, puisqu'elle manque d'un mécanisme effectif de contrôle.
Le but, c'est pas d'être exemplaire. On peut se tromper. Dans mon laboratoire, sur le quota, il y a des choses qui marchent pas, on corrige. Et nous, on n'a pas la solution. Probablement qu'il n'y a même pas une solution pour la recherche académique, mais qu'il y a des solutions adaptées à la diversité du milieu et que ça peut servir d'incubateur pour d'autres secteurs de la société. Est-ce que c'est unique? Oui, mais c'est dommage.
Cette démarche et ces outils du Labo 1.5 se répandent donc rapidement au niveau des tutelles de recherche. Dès 2022, le CNRS a commencé à s'en saisir. On suivit l'INRAE, l'INSERM et tout récemment, l'Institut de recherche pour les développements.
Le reportage de la rédaction était signé Cécile de Kervas-Doué.